Écho de la bonne nouvelle. Écho de la bonne nouvelle, une émission d'évangélisation et d'édification chrétienne. Se préparer au grand voyage. Un grand voyage vers un pays inconnu se prépare soigneusement à l'avance. Il faut se renseigner auprès de ceux qui connaissent le pays où on va pour savoir si on ne sera pas refoulé aux frontières, si les arrivants ne seront pas attaqués, dévalisés, battus, emprisonnés, etc. Sinon, c'est la catastrophe assurée. On dit couramment « voyage bien préparé ». Voyage bien réussi. Il y a une chose dont nous sommes tous absolument convaincus, c'est que notre grand voyage terrestre aura une fin. Nous allons quitter la terre. Pour certains, la vie se terminera dans quelques jours. Pour d'autres, un peu plus tard. Mais un jour, il faudra bien que moi, comme toi, nous quittions la terre pour l'au-delà. Sais-tu comment tu seras reçu dans le pays au-delà? À la mort, notre corps est mis à la terre, mais notre âme, où va-t-elle? Nous sommes des êtres responsables devant Dieu. Dieu, dans la Bible, nous dit, et notre conscience aussi, qu'au-delà de la mort, nous devrons rendre compte de toute notre vie, absolument de toute. Es-tu prêt pour ce jour? Sais-tu qui va être le juge de ma vie, de ta vie? C'est le Seigneur Jésus-Christ que les hommes ont méprisé, haï, rejeté et cloué sur une croix. Lui, Dieu l'a ressuscité et haut élevé au-dessus de tout. Il l'a établi juge des vivants et des morts. Actes chapitre 10, verset 42. Es-tu prêt à le rencontrer? Veux-tu, au-delà, échapper à la condamnation? Un moyen t'est donné. Un seul, celui de rencontrer dès aujourd'hui Jésus dans la prière, de lui confesser tes fautes, tes méchancetés, de tout lui dire et de lui demander son pardon. Il aime le pécheur, donc il t'aime aussi, mais il hait tes péchés. Ils sont des outrages pour lui. Il est prêt à effacer toutes tes iniquités, tous tes péchés, même les plus graves, si tu te repens devant lui. N'est-ce pas le plus grand pardon que tu puisses désirer? Quand le juge suprême pardonne, c'est définitif. C'est pour l'éternité. Alors, aujourd'hui, repens-toi humblement devant lui et implore sa grâce. Il pardonne gratuitement. Prépare-toi. Avec son pardon, il te donnera sa vie, son Saint-Esprit, et la promesse d'être avec lui pour toujours. Tu connaîtras alors l'amour de Dieu, la joie, la paix. À mon voisin. Tu comprends certainement qu'il ne faut pas se tromper quand il s'agit de notre existence après la mort, celle de notre âme. Il y a dans le monde des idolâtres, des fétichistes et animistes, des musulmans, des juifs, des chrétiens. Es-tu certain d'avoir fait le bon choix, d'être sur le bon chemin? celui qui va au ciel auprès de Dieu et non en enfer. Dans l'Ancien Testament, qui nous parle d'Abraham, un sauveur est annoncé. Plus de 300 prophéties annoncent sa venue sur la terre. Il est même dit qu'un signe le fera reconnaître. Ce signe, c'est qu'il naîtra d'une vierge. C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Ésaïe chapitre 4, verset 14. Il y a 2000 ans, Jésus est né d'une vierge. Il a été conçu du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est Dieu et en même temps homme. C'est un mystère qui appartient à Dieu. Jésus-Christ a effectivement vécu et travaillé dans une famille normale jusqu'à 30 ans. Puis il a prêché pendant 3 ans et demi. Il a montré son amour et sa puissance en guérissant tous ceux qu'il rencontrait et que le diable tenait en son pouvoir. Il rendait la santé aux malades et aux infirmes. Son message était toujours parfaitement sage, plein d'amour, plein de grâce et de vérité. Il pouvait parler du ciel d'où il venait. Il pouvait aussi dire ce qu'il fallait faire pour que les péchés soient effacés devant Dieu. Dieu est très saint. Nos péchés l'offensent. Nous ne pouvons rien lui offrir pour qu'il nous pardonne. Impossible d'effacer nous-mêmes nos pensées impures, nos paroles méchantes, nos actes coupables. Il nous accuse. C'est pourquoi Jésus-Christ, à la fin de son ministère, s'est présenté lui-même pour subir à notre place le châtiment de Dieu. Ce sont bien les hommes qui l'ont crucifié sur une croix, mais il s'est aussi laissé prendre volontairement. Il ne s'est pas défendu, précisément parce qu'il voulait expier lui-même nos péchés. Sur la croix, il s'est chargé de nos péchés, comme il est écrit. Certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Et nous, nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix a été sur lui. Ésaïe, chapitre 53, versets 4 et 5. Après avoir passé 3 jours et 3 nuits dans un tombeau, Dieu l'a ressuscité. Il est resté 40 jours avec ses disciples, leur parlant du royaume de Dieu. Puis, il a été élevé dans le ciel et Dieu l'a fait asseoir à sa droite. Là, depuis le ciel, il te voit et parce qu'il t'aime, il t'ordonne de croire en lui, en son œuvre, en sa victoire sur la mort. Si tu crois, tu seras sauvé. Rien à faire, rien à offrir. Tout est don gratuit. Dieu donne tout, le pardon des péchés et aussi la vie éternelle. Ceux qui ont mis leur confiance en Jésus sont absolument certains de leur salut. Ils sont devenus des enfants de Dieu. Personne ne les ravira de ma main, a dit Jésus. Jean chapitre 10, verset 28. Merveilleuse certitude. Je te conseille de te procurer les 4 évangiles, de les lire, de prier Dieu pour qu'il se révèle à toi. Quelle joie et quelle paix quand tu sauras que tes péchés sont effacés et que tu as la vie éternelle. Ton grand désir sera alors de te faire baptiser et de témoigner avec joie de ce que Jésus a fait pour toi. Être et rester humble. Il est écrit 2 fois dans le Nouveau Testament Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. 1 Pierre chapitre 5, verset 5 et Jacques chapitre 4, verset 6. Qui voudrait que Dieu lui résiste? Personne. Alors, ayons en horreur l'orgueil en nous et soyons très humbles. Soyons humbles devant Dieu en écoutant sa parole et en lui obéissant. Soyons humbles envers nos frères et sœurs dans la foi en les servant. Soyons humbles vis-à-vis des non-croyants en étant aimables, dévoués. Ce n'est pas en faisant un simple effort de volonté que nous y arriverons, mais en considérant la vie, le comportement, les paroles du Seigneur Jésus. Il est le parfait modèle d'humilité. Lisez les évangiles en cherchant à discerner l'humilité de Jésus, qui pourtant était aussi Dieu. Connaître ainsi le Seigneur nous encourage à lui ressembler dans son esprit de douceur, d'humilité, de service envers les autres. Chaque jour, quand nous rencontrons quelqu'un, demandons-nous comment mon Sauveur aurait-il agi à ma place. Dans chaque être humain, il voyait quelqu'un à aimer, à servir, à qui faire du bien. Différence entre avoir et être. Être un chrétien juste, droit, humble, serviable, plein d'amour, de douceur, de compassion est beaucoup plus important que d'avoir de l'argent, une auto, une mobylette, une maison, beaucoup de champs, etc. Mes biens possédés sur la terre seront inutiles au ciel devant Dieu. Ce qui comptera, c'est comment je me suis comporté en chrétien sur la terre, envers lui, envers les autres. C'est mon être qui sera apprécié et non mon avoir. Jésus-Christ a dit, « Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme ?» Marc chapitre 8, verset 9. L'Église, épouse de Christ. L'ensemble des rachetés du Seigneur sur la terre constitue l'Église. Elle est appelée l'épouse de Christ. Il l'aime de toute éternité et s'est livré lui-même par amour à la croix pour se l'acquérir. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Son amour pour elle est actif, parfait, invariable, éternel. C'est pour l'éternité que l'Église est unie à Christ comme son épouse. Cette comparaison nous permet de comprendre l'immense amour de Christ pour l'Église. En retour, il attend de son Église qu'elle l'aime, qu'elle se consacre à sa personne, qu'elle lui rende témoignage. Quand un homme aime beaucoup sa femme, qu'est-ce qui le rend triste? C'est quand elle ne l'aime pas beaucoup, et ce qui est bien plus grave, quand elle lui devient infidèle. De même, ce qui attriste le Seigneur, c'est quand l'amour de l'Église diminue, et pire, quand elle devient adultère en aimant le monde et en se conformant aux pensées du monde. Dans la pratique, chaque groupe de rachetés doit aimer profondément le Seigneur, se confier en lui, se soumettre à son autorité, se dévouer à son œuvre comme une épouse parfaite. Quel programme! Qu'est-ce que la foi? Si je prends l'avion, je fais confiance au mécanicien qui veille sur le parfait fonctionnement des moteurs. Car si un moteur tombe en panne quand l'avion vole à 7000 mètres au-dessus du sol, c'est la catastrophe. J'ai donc foi dans le mécanicien, dans ses capacités techniques pour les moteurs d'avion. Quant à ma foi en Dieu, c'est un peu la même chose. Dieu a fait écrire dans la Bible ses pensées, ses promesses pour ceux qui croient, ce que je dois savoir de lui, de moi, du monde, etc. Avoir foi en Dieu, c'est le croire. Croire ce qu'il a fait écrire dans la Bible. Dieu ne ment jamais. Le diable est un menteur. Dans la Bible, des faits historiques nous sont rapportés. Par exemple, la vie d'Abraham dans l'Ancien Testament, la naissance, la vie, la mort, la résurrection du Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament. Nous croyons ces faits. Je crois Dieu quand il affirme qu'il m'aime. Je crois Dieu quand il dit qu'après la mort, les hommes iront soit au ciel avec Jésus, s'ils ont cru en lui, soit s'ils n'ont pas cru, en enfer pour les tourments éternels avec le diable. Dieu dit qu'il fait grâce au pécheur qui se repent, je le crois. Il dit que je suis rendu parfait à perpétuité par l'œuvre de Christ au calvaire, je le crois. Il m'assure qu'il m'aime, mais qu'il a en horreur mes péchés, je le crois. Je crois tout ce que Dieu dit dans la Bible, car Dieu est vrai, il ne peut pas mentir. Des milliers de personnes ont mis leur confiance en Dieu. La paix et la joie remplissent leur âme. La foi honore Dieu et Dieu honore et bénit ceux qui lui font confiance. Abraham a cru Dieu et Dieu en a fait son ami. Et toi, si tu crois, Dieu fait de toi son enfant bien-aimé. N'est-ce pas merveilleux? Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. Jean chapitre 20, verset 29. Le chrétien et l'alcool. Par plusieurs exemples et un enseignement précis, la Bible nous parle de la gravité de s'enivrer. L'ivresse fait perdre à l'homme sa dignité de créature intelligente. C'est comme une bête, l'homme ivre ne discerne plus le bien et le mal. Le vrai croyant est un enfant de Dieu, un enfant de lumière, un enfant d'obéissance. S'il a saisi par le cœur ce que Dieu a fait de lui, il veut absolument conserver la maîtrise de son esprit par lequel il reste en contact avec son Dieu. Écoutons ce que Dieu dit. Ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit, vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur, rendant toujours grâce pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père, étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 19. C'était Écho de la Bonne Nouvelle, une émission d'évangélisation et d'édification chrétienne. Voici notre adresse, Écho de la Bonne Nouvelle, 01, boîte postale 832, Lomé, Togo. Courriel maison des traités @yahoo.fr.